Il est mort, Jim, lu par l'auteur, épisode 71, chapitre 11. Je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi ce qu'était un bardo. C'est une sorte d'état intermédiaire entre la vie et la mort. Le bardo dont je voulais parler, c'est celui qu'ils appellent du devenir. Il parle de cette revue de la vie, des expériences de mort imminente. Il dit que nous revivons toutes les expériences de notre vie, et même que nous passons en revue les moindres détails, même ceux que nous avons complètement oubliés. Je crois bien que sur cette question, il dit que cette revue montre que le karma est inéluctable. Oui, que nos actions, nos paroles et même nos pensées ont des conséquences. Ce qui est quand même largement injuste, sauf le respect que je dois au maître bouddhiste, remarquai-je. Parce qu'enfin, je peux contrôler mes actes, mais mes pensées, à moins que ce soit en relation avec la méditation maintenant où j'y pense, dans laquelle on apprend à chasser ses pensées. Oui, c'est ça. Cela veut dire qu'on les contrôle en quelque sorte. Il y a aussi une analogie intéressante dans le livre entre les EMI et la mort elle-même. Elles sont une répétition de celle-ci. Bof, rien de bien astucieux dans cette remarque. Madame est difficile. Permets-moi de te lire quelque chose de plus transcendantal. Le livre parle de façon intéressante des représentations des déités des autres religions. Les déités peuvent revêtir les formes qui dans notre vie nous sont les plus familières. Pour des pratiquants chrétiens, les déités peuvent par exemple prendre l'apparence du Christ ou de la Vierge Marie. D'une façon générale, la manifestation éveillée des Bouddhas, ayant pour seul dessein de nous aider, ceux-ci peuvent donc assumer la forme qui sera la plus appropriée et la plus bénéfique pour nous. Mais quel que soit l'aspect sous lequel les déités apparaissent, il est important de reconnaître qu'il n'existe absolument aucune différence quant à leur nature fondamentale. Ce n'est quand même pas mal. On n'est pas habitué, avec le catholicisme et encore moins avec l'islam, pour ce que j'en sais, à une telle ouverture vis-à-vis des autres religions. Moi aussi, je trouve que c'est un des messages étonnants de ce livre. Il conseille même de choisir le Dieu qui est le plus proche de nous, qui nous parle le plus. J'ai noté une phrase bien claire à ce sujet. Lisez les grandes œuvres spirituelles de toutes les traditions, essayez de comprendre ce que les maîtres entendent par libération et éveil, et découvrez quelle approche de la réalité absolue vous attire réellement et vous convient le mieux. Et il ne s'arrête pas là. Aussi, lorsque vous aurez exploré les diverses traditions mystiques, choisissez un maître, homme ou femme, et suivez-le. S'engager sur le chemin spirituel est une chose, trouver la patience et l'endurance, la sagesse, le courage et l'humilité de le parcourir jusqu'au bout en est une autre. La question de la lumière, ajoutai-je, est aussi œcuménique. Œcuménique, c'est un raccourci. Je veux dire qu'elle est récurrente dans plusieurs traditions religieuses. Concernant les EMI, j'ai lu quelque part, ce n'est pas noté dans ton carnet. Si, si, merci de t'en inquiéter. C'est parfaitement référencé, mais à la maison. Bon, je continue, à moins que tu n'y voies un inconvénient. Je disais que j'ai lu que les sceptiques avançaient pour prouver que les EMI n'étaient que des représentations, donc des hallucinations, le fait qu'en Occident, ceux qui les vivaient voyaient des lumières, influencés qu'ils étaient par les images du catholicisme, tandis qu'en Asie, les récits ne mentionnaient pas les lumières ou bien moins. Le bouddhisme vient les contredire. Que je sache, il est né en Inde et s'est développé au Tibet et à Gurin. Le lama a insisté sur les visions de lumière après la mort. J'ai même noté qu'il fallait choisir la plus forte et pas forcément la plus engageante. Je vais essayer de m'en rappeler. Je ris et cherchais ma compagne du regard. Elle avait pâli. Je n'avais pas été très adroit. Couché sur le canapé du salon de mon appartement, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon livre. Je lisais l'essai de Gustavo Gorriti sur le sentier lumineux. Journaliste, il avait été inquiété à l'époque du président Fujimori et sous l'action de son âme damnée, Vladimir Montesinos. Le livre m'aurait sans doute plus intéressé au moment où le sujet m'occupait. Les mots échangés avec les Angela au parc étaient aussi pour beaucoup dans mon manque d'attention. J'avais prononcé le nom de son ex-compagnon, Francisco, dont m'avait parlé Roberta. La fureur avait peint les traits de les Angela. Ainsi, j'avais aussi mis mon nez dans sa vie sentimentale. Rien ne m'arrêtait. Et comment avais-je connu Francisco? Et pourquoi faire?